Eh bien, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'émission Mode d'emploi, qui est aujourd'hui animée par Didier et Mathieu de la Fondation Copernic. Le thème de la journée, eh bien, ça sera la répression syndicale. Nous avons deux invités, Anne et Agnès, avec qui nous aborderons la question difficile de la répression qui s'exerce sur les militants syndicaux. Et nous aurons peut-être la visite d'un cinéaste qui a réalisé un travail pour lequel nous pourrons aborder également ces questions. Eh bien, bonjour donc, bonjour Anne, bonjour Agnès.
Bonjour.
Comme je le disais tout à l'heure, donc aujourd'hui, la Fondation Copernic va se discuter autour de la question de la répression et des discriminations syndicales. Une note de la Fondation Copernic que vous pouvez trouver maintenant en librairie vient de sortir. Elle était écrite par différents militants syndicaux, des chercheurs, des militants associatifs, comme c'est, vous le savez, le cas de toutes les notes de la Fondation Copernic. Et cette note porte sur la répression et les discriminations syndicales. On sait en effet que c'est un sujet qui est particulièrement complexe, souvent occulté. D'ailleurs, de ce point de vue, les données dont on dispose, données qui peuvent être produites par le ministère du Travail, par exemple, eh bien, sont tout à fait insuffisantes. Et on sait que c'est un problème qui touche beaucoup de militants syndicaux, néanmoins, et que si aujourd'hui le syndicalisme éprouve des difficultés, c'est entre autres, évidemment pas exclusivement, mais entre autres dû à la répression qui s'exerce sur les militants les plus actifs. Donc pour cela, on a invité aujourd'hui une des rédactrices de cette note, Anne, qui est militante à Sud Énergie, et nous avons également invité Agnès, qui est présentée dans cette note, hein, a bien voulu s'exprimer dans cette note, et qui elle-même a été victime de manière tout à fait violente de répression de la part de son employeur, et elle prendra évidemment du temps pour nous expliquer comment tout ça s'est passé et les effets que cette répression a pu avoir à la fois sur elle-même, hein, mais aussi sur le collectif de travail dans lequel est insérée, puisqu'elle travaille, je l'ai pas dit, elle travaille à la Cité des Sciences à Paris. Alors peut-être une première question pour Anne. D'abord, toute simple, pourquoi avoir voulu écrire cette note sur la répression syndicale? Quelle est un petit peu l'origine, finalement, de ce travail?
En fait, c'est un événement qui a déclenché la rencontre avec Copernic. En tant que militante syndicale et en tant que militant syndicaux à EDF, peut-être moins qu'ailleurs, mais aussi à EDF, on est confronté assez régulièrement à la répression et à la discrimination syndicale. Mais il y a eu un épisode particulièrement violent qui s'est passé dans nos entreprises. Suite à un mouvement social, suite à un gros mouvement social qu'il y a eu au printemps 2009 et qui a été réprimé d'une manière assez inhabituelle à EDF et GDF. Alors réprimé de deux façons différentes, je dirais. Dans le secteur du nucléaire, donc dans les centrales nucléaires, il y a eu des réquisitions comme il n'y avait jamais eu avant. C'est-à-dire que les cas de réquisition existent dans le nucléaire, mais quand il y a un risque réellement d'effondrement du réseau ou quand il y a un risque pour les installations, là, les salariés qui étaient en grève et qui sont très très soucieux de la sécurité des centrales et de la sûreté des installations, s'étaient mis en grève au moment où les centrales étaient en maintenance, donc ne fonctionnaient pas. Donc il n'y avait aucun risque, mais ça coûtait de l'argent à l'entreprise, bien sûr. Et donc l'entreprise, plutôt que de négocier, d'avoir un dialogue social normal, a décidé, pour mettre fin à la grève, de réquisitionner le personnel, de dire maintenant vous arrêtez, vous retournez au travail, en étant payé moins que les autres si vous voulez être gréviste, mais vous travaillez. Alors, c'est quand même quelque chose, peut-être qu'on reviendra là-dessus, c'est un recul du droit de grève, une forme de recul du droit de grève qui existe chez nous, mais qui existe aussi dans d'autres secteurs publics, comme les transports, par exemple. C'est-à-dire que l'employeur, aujourd'hui, EDF, c'est une société anonyme, donc c'est une entreprise de droit privé, s'est octroyé le droit de réquisitionner le personnel sans en référer à un tiers, sans en référer à un représentant de l'État ou à un préfet, sans même argumenter sur les risques réels, simplement en disant, en affirmant, mais sans donner d'éléments, qu'il y avait un risque de quelques coupures l'été en cas de canicule extrême, ce qui en plus est faux. Et donc le personnel a dû reprendre le travail et ça a mis fin au mouvement social. Bon, alors sur cette question des réquisitions, c'est toujours devant le Conseil d'État pour être jugé. Ça fait maintenant 2 ans, on attend toujours. Dans la distribution, là, il n'y a pas eu de réquisition, ou en tout cas très ponctuelle, mais par contre, il y a eu beaucoup de sanctions. Il y a eu en tout 240 sanctions. Alors, les sanctions, ça va du blâme jusqu'au licenciement, en passant par des mises à pied, des rétrogradations. Alors, évidemment, ça touchait essentiellement les plus actifs des militants. Pas forcément que les syndiqués, mais essentiellement des syndiqués, les plus actifs, souvent les plus jeunes, enfin en gros les plus dangereux pour l'entreprise. Et nous, on a été confrontés sur un cas personnel, le cas de Nordine, à un licenciement sec.
Nordine, c'est d'ailleurs un des cas que vous présentez dans la note. Hein.
Voilà, c'est un des cas qu'on présente dans la note. Alors c'est vraiment un cas assez typique, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui travaillait dans l'entreprise depuis 12 ans, qui avait toujours des très bonnes évaluations professionnelles. Et un mois après le mouvement de grève où il a été un des meneurs, où il a même été médiatisé, il a eu des articles dans les Échos par exemple, il a été interviewé. Un mois après, l'entreprise lui reproche 3 fautes professionnelles qui vraiment ne tiennent pas debout. Alors, on peut, je ne sais pas si tu veux que les détails peut-être, hein. Enfin, en quelques mots, c'est carrément grotesque. On lui a, alors c'est quelqu'un, Nordine, il est technicien, il était plutôt technicien d'intervention de gaz.
Aujourd'hui, il est toujours pas réintégré.
Aujourd'hui, il est toujours pas réintégré, voilà. Donc, il intervient sur les réseaux gaz quand il y a une fuite ou quand il y a un risque. Et on lui a reproché, alors, en premier, enfin 3 fautes, hein. Donc la première, avoir déclaré des heures qu'il n'aurait pas faites, donc puisqu'il intervient sur le réseau, ensuite il remplit ses feuilles, et donc il se serait fait payer des heures sup indûment, alors ça se compte en peut-être 100 euros, quelque chose comme ça. Hein. Sauf que quand on va dans le détail, on s'aperçoit que ces soi-disant dépassements d'horaires ont été argu... enfin l'entreprise a dit vous avez dépassé, enfin vous avez mal déclaré vos heures. D'ailleurs, on a la preuve, les clients ont témoigné, ils ont été recueillir des témoignages de clients. Quand on lit les témoignages de clients, les soi-disant clients pour plusieurs se révèlent être des cadres de l'entreprise, donc on a quand même de gros doutes sur la véracité, ou alors vraiment il n'a pas eu de chance. Et puis il y a des témoignages qui se contredisent complètement, c'est-à-dire qu'il y a un client qui dit qu'il était à tel endroit à tel endroit, l'autre qui dit qu'il était au même endroit, à l'autre bout de Paris, à la même heure. Donc, première faute, il ne tient pas debout et on voit que c'est un dossier qui a été vraiment monté de toutes pièces. Il y a eu une deuxième faute, on lui a reproché de ne pas avoir rendu son véhicule d'astreinte avant 9h30 du matin, alors qu'il était intervenu jusqu'à 3h du matin la veille. Donc ça, c'est un règlement d'entreprise dont l'inspecteur du travail a dit qu'il n'était pas conforme à la loi. Donc on peut pas dire que ce soit vraiment une faute. Et la troisième faute qui est encore plus absurde, on lui a reproché d'avoir écrit sur un tract dans un panneau d'affichage syndical une insulte envers ceux qui arrachent les tracts des panneaux sud. Donc évidemment, il n'a pas signé, donc ils sont basés sur une analyse graphologique, on peut penser ce qu'on veut de l'analyse graphologique, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est contestable. Et surtout, il n'a pas accusé la direction qui dit qu'elle s'est reconnue. Et pourquoi elle dit qu'elle s'est reconnue? Parce qu'effectivement, elle arrachait les tracts des panneaux syndicaux, donc elle faisait de l'entrave, elle le reconnaît et elle l'assume. Donc, alors... À EDF, comme dans d'autres entreprises, on a des procédures internes qui sont des véritables parodies de justice. Donc il y a une enquête qui est menée, soi-disant par un rapporteur qui va interviewer tout le monde. Et sauf que le rapporteur, il est nommé par la direction. Ensuite, il y a un conseil de discipline paritaire avec moitié syndicat, moitié employeur. Tous les représentants des syndicaux ont jugé que le dossier était monté de toutes pièces. Et puis finalement, c'est la direction qui prend la décision. Donc elle a décidé de le licencier. Alors licencié, Nordine, il a deux petits enfants, son épouse qui travaille pas, donc et puis en plus il était logé dans un logement de l'entreprise puisqu'il avait de l'astreinte. Donc il s'est retrouvé dehors, sans pratiquement rien pour subvenir aux besoins de la famille. Donc évidemment il y a eu un gros sentiment d'injustice, une grosse rage dans l'entreprise, surtout que ça venait après donc un gros mouvement social qui avait pas trouvé du tout d'écoute, et nous en tant que responsable syndicaux on a vraiment eu peur pour lui, et puis on était révoltés par rapport à cette injustice. Donc il y a eu deux de nos responsables syndicaux qui ont décidé de rentrer en grève de la faim, ce qui est quelque chose de très inhabituel, enfin qui n'était jamais arrivé jusqu'à présent, mais parce que vraiment on considérait que le problème était grave, tant individuellement pour Nordine que pour les droits syndicaux et le droit du travail dans l'entreprise. On a eu un très large soutien à la fois du monde associatif et du monde politique. Donc évidemment, tout le monde était convaincu que c'était un licenciement pour fait de grève. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé vraiment d'électrochoc. Ils ont dit jamais on n'aurait pensé que de tels comportements avaient lieu, en tout cas dans des grandes entreprises comme ça. Et à l'occasion de cette grève de la faim et un peu de la médiatisation qu'il y a eu autour, on a rencontré donc des représentants de Copernic. Et en discutant ensemble, on a fait le constat qu'en fait, cette situation de répression et de discrimination était très peu connue, très peu mise à jour, comme tu disais, Didier. Et pourtant, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. C'est essentiel, bon, à la fois parce que c'est un droit fondamental qui est quand même reconnu par la Constitution. Et si on sait très bien que si on ne se bat pas pour le défendre, eh bien, ça va disparaître. Mais ça va au-delà de ça. Tu l'as dit, ça, c'est un vrai handicap à l'implantation des syndicats dans l'entreprise, et qui dit entrave au droit syndical dit aussi que c'est une régression pour l'ensemble du droit du travail. Enfin, on sait bien que tous les acquis sociaux qu'il y a aujourd'hui sont le résultat de lutte. Et quand il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise, on le voit dans certains secteurs, on va peut-être y revenir, le droit syndical, le droit du travail pour tous est bien plus faible. On prend le secteur du nettoyage, par exemple. Voilà. Donc nous, on pense que les enjeux sont énormes et qu'il faut faire émerger cette question un peu publiquement.
Tu nous disais, Anne, que vous aviez eu un soutien tout à fait important, hein, de la part des organisations syndicales, des instances politiques, lors de cette... événement qui avait été fortement médiatisé à l'époque, pour lequel effectivement il y avait eu des grévistes de la faim qui s'étaient déclarés. Je serais bien tenté de poser la question à Agnès, sans peut-être qu'elle aborde tout de suite, hein, exactement ce qui a été pour elle, hein, ce cas de discrimination. Mais peut-être qu'elle revienne elle-même sur comment est-ce qu'a réagi son environnement professionnel, son environnement syndical aux mesures de discrimination auxquelles elle a été confrontée. Est-ce que pour toi le soutien a été aussi fort que ça a été le cas dans le pour Nordine, par exemple?
Alors pour ce qui me concerne, bien entendu, c'est pas du tout comparable, parce que EDF c'est quand même une énorme entreprise, et on voit, si je peux me permettre, déjà de donner une opinion politique sur ce genre de comportement. Là, je l'ai noté justement parce que j'ai noté l'électrochoc dans une entreprise de cette ampleur. Effectivement, ça c'est le résultat de ce qu'on peut. De ce qu'on voit enfin dans les entreprises qui sont privatisées à la hache, quoi. Enfin, c'est quand même notre patrimoine qui nous est retiré et dans lequel on se permet d'avoir des comportements qui sont parfaitement illégaux. La discrimination, c'est un délit dans le droit français. Ça peut aller jusqu'au pénal. On peut avoir de la prison.
On y reviendra, puisqu'effectivement,
voilà.
C'est un des
voilà,
débats.
C'est ça que c'est ce que je voulais dire justement par rapport à ce que vient de dire Anne. Pour ce qui me concerne, donc Cité des Sciences, 1000 personnes à l'époque, devenues aujourd'hui Universcience avec le rapprochement, enfin la fusion avec le Palais de la Découverte, comme par hasard. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose, il y a Anguille sous roche pour cette affaire-là. Il y a 1500 personnes aujourd'hui. À l'époque, donc, j'ai eu des soutiens de mes collègues en particulier, parce que je suis déléguée du personnel. Alors, je suis rentrée à la Cité des Sciences en 86, à l'ouverture. J'ai été mon premier mandat de délégué du personnel. Alors je suis
à la CGT.
C'est ça, CGT. Depuis toujours. Je suis rentrée à la CGT. J'avais 19 ans. J'en ai 56. Donc c'est une grande affaire, une longue affaire, une grande histoire avec la CGT. Et donc mon premier mandat de délégué du personnel, je l'ai eu en 88. Comme j'étais déjà militante, distributrice de tracts, etc., etc., j'étais déjà particulièrement mal vue dès le départ. C'était vite dans la discrimination, je l'ai eu dès le départ. Et j'ai pas arrangé mes affaires dans la mesure où j'ai été déléguée du personnel, ensuite conseillère du salarié, et aujourd'hui je suis conseillère prud'homme. Alors là, pour revenir à ta question, excuse-moi, je pensais que c'était important de poser l'environnement. Alors en tant que déléguée du personnel, j'ai bien entendu connu énormément de personnes. Je ne suis absolument pas timide, surtout je me fais pas impressionner par la direction. Il n'y a pas de raison, hein, ils sont comme tout le monde. Je pense que leur façon de faire les gros yeux est absolument inadmissible. J'ai été soutenue par les petits syndicats, par des syndicalistes, mais surtout par les collègues. J'ai été très impressionnée. J'ai un petit peu de difficulté à parler de mon propre syndicat qui n'était pas forcément très en avant. Oui, parce que je vais regretter, je ne sais pas, je vais peut-être me faire taper dessus par mes camarades, mais écoutez, tant pis, hein, parce que je pense que c'est une erreur grossière et qu'il faut absolument qu'on travaille entre nous. C'est l'idéologie du martyr. C'est-à-dire, à partir du moment où on est syndicaliste, il est logique qu'on en prenne plein la figure, qu'on n'est pas dans l'augmentation de salaire, que bon, on a choisi de se battre. Alors, c'est pas la rose au poing, bien entendu, fleur au fusil, pardon. Je cherchais la rose au poing, c'est pas du tout la même chose. Je vous demande d'oublier mes camarades auditeurs ce que je viens de dire. Donc la fleur au fusil, non, mais presque. Et ça, je pense que le soir du grand soir, je l'aimerais bien, mais je ne suis pas sûre que ce soit d'actualité. Voilà, donc je crois que la CGT a elle-même des responsabilités dans cette... les syndicats ont des responsabilités dans le fait que la discrimination soit aussi répandue dans nos entreprises, notamment les grandes entreprises.
Je crois effectivement, j'ai évidemment parcouru cette note avant de vous rencontrer, et c'est effectivement une des questions que vous abordez de manière très claire, c'est justement l'idée que une des raisons pour laquelle ces méthodes patronales peuvent se répandre, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire effectivement d'abord qu'il y a eu pendant longtemps cette idée que le militant syndical, eh bien, c'était un engagement fort, et que à cet engagement il y avait une contrepartie qui était celle éventuellement de la répression, et que cette répression Elle était quelque part légitime.
Donc méritée côté salarié, légitime côté employeur.
Voilà. Donc par ailleurs, c'est ce que dit la note, les organisations syndicales, lorsqu'elles combattent, parce qu'elles combattent évidemment ces discriminations, elles les combattent fortement, mais elles les combattent souvent isolées organisations syndicales par organe syndical, ou bien isolé entreprise par entreprise. Est-ce que Anne peut peut-être reprendre...
Oui, c'est vrai que c'est une des raisons de cette note et de ce qu'on souhaite faire derrière, c'est-à-dire mettre en commun les combats pour porter le combat à la hauteur qu'il mérite. C'est vrai que les syndicats qui sont directement confrontés, donc localement, à de la discrimination, à de la répression, on traite cette question, mais le traite de manière isolée, en général pas unitaire, difficilement avec les autres syndicats, et donc c'est insuffisant. Alors bon, c'est vrai qu'il y a, ce que dit Agnès est vrai, il y a une réticence, bon, qui est liée peut-être à plusieurs choses, c'est-à-dire que le syndicalisme, alors il y a la notion de martyr, il y a le fait aussi que c'est souvent des combats individuels et que donc le syndicat n'est pas habitué à ça, il y a le fait qu'on est finalement assez mal armé pour le juridique, que le juridique coûte cher et qu'on n'a pas les mêmes moyens que la direction. On reviendra là-dessus, je pense. Ça coûte cher aussi en temps. Donc voilà, nous on pense que c'est un fait politique, un fait social majeur qui, on en a parlé, donc qui influe sur l'ensemble du droit du travail, mais également aussi sur la question de la démocratie. Simplement, on sait que on va en reparler, mais il faut absolument des contre-pouvoirs dans l'entreprise. L'entreprise a une aura bien au-delà d'elle-même. Je peux reprendre l'exemple du nucléaire. Si on ne permet pas un contre-pouvoir parmi les salariés du nucléaire qui peuvent alerter quand il y a un problème, quand il y a des dysfonctionnements, quand il y a des dépassements d'horaires, comme on voit aujourd'hui, qui sont dangereux pour tout le monde, quand il y a de la sous-traitance qui met en danger aussi les installations et tout le monde, quand il y a des problèmes environnementaux, eh bien ça retentit sur toute la société. Et puis au-delà de ça, les salariés passent une grande part de leur vie en entreprise. On voit bien que ce qui se passe dans l'entreprise a des répercussions sur leur vie personnelle et générale, et qu'on peut pas accepter ce qui se passe aujourd'hui. Quand on lit, enfin comme moi j'ai passé pas mal de temps à interviewer les gens, et c'est vrai que c'est frappant et c'est très touchant de voir comment aujourd'hui la toute-puissance patronale peut détruire des gens en toute impunité.
Là, on vient de voir effectivement, vous venez de nous exposer un peu des cas qui sont des cas individuels. Dans la note, vous abordez la question de la répression syndicale sous un autre volet, celui un peu de la répression, je dirais, sur l'ensemble de l'organisation syndicale. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tout ça se construit, comment est-ce que les employeurs, le patronat pratiquent pour d'un côté effectivement s'attaquer aux individus, mais de l'autre s'attaquer plus largement aux organisations syndicales?
Oui, c'est un peu lié, parce que le fait de s'attaquer aux individus qui sont ciblés, qui sont en général les plus contestataires, a une influence sur l'organisation en général. Mais on voit que c'est une stratégie patronale réfléchie, le fait de jouer sur l'arme de la discrimination et de la répression, et que ça a un vrai impact sur le syndicalisme. Enfin, la note reprend des études qui montrent que c'est un des freins majeurs à la syndicalisation des gens. Alors, particulièrement dans les petites entreprises, il y a des endroits où c'est impossible, pratiquement, enfin on peut le dire, de se syndiquer, même chez nous, selon les organisations syndicales. Moi, je suis à Sud, il y a des gens qui n'osent pas dire qu'ils sont à Sud parce qu'ils savent que ça va avoir un impact sur le déroulement de carrière. Donc les patrons font savoir que c'est mauvais pour la carrière, que c'est prendre un risque que de se syndiquer, que d'oser se montrer, que d'oser résister, et donc freine le développement des organisations pour après pouvoir avoir les mains libres dans le choix, dans les choix de gestion, dans les de gestion des ressources humaines et d'orientation de l'entreprise.
Agnès ?
Oui, c'est vrai ce que dit Anne, et on peut le dire de façon très simple. Les collègues, quand ils arrivent, s'ils ont à choisir entre je fais carrière, je monte une famille, je me marie, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai une voiture, je peux partir en vacances, et je me lance dans la lutte syndicale et je ne pourrai absolument pas progresser dans ma carrière, je n'aurai pas de formation, je n'aurai pas d'augmentation de salaire, je ne pourrai pas faire ma vie, le choix, il est vite fait. Bien entendu. Alors, il y a des gens qui... Enfin, il y a beaucoup de camarades qui deviennent des camarades, parce qu'à un moment donné, il y a quand même la dignité qui fait remonter la tête. Ça paraît évident, mais c'est vrai que je pense que c'est une réflexion qu'un jeune travailleur peut se faire. Moi, j'ai mes 56 ans, ça se posait pas comme ça à l'époque, bien entendu.
On va pouvoir y réfléchir pendant la pause musicale avec Renaud, étudiant Paul Audan.
Vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. Pour ceux qui veulent nous appeler, écoutez, n'hésitez pas, hein, vous avez toujours un téléphone à votre disposition, 01 40 05 06 10. Et nous continuons donc ce débat sur aujourd'hui animé par la Fondation Copernic avec Anne et Agnès autour de la question de la répression et des discriminations syndicales. Pendant la pause musicale, Anne, on discutait un petit peu comme ça off sur le fait que, évidemment, la discrimination syndicale ne s'exerce pas de manière identique dans tous les différents secteurs, et évidemment, il y a des lieux pour lesquels elle est beaucoup plus importante que dans d'autres. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces questions?
Oui, enfin, les attaques existent partout, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs particulièrement en pointe et notamment chez nous, on voit dans les entreprises de sous-traitance, c'est encore à un niveau au-dessus de ce qu'ils peuvent faire pour les salariés sous statut. Et d'ailleurs, la sous-traitance se développe de manière massive en France comme en Europe. Pourquoi ? probablement au-delà, moi je pense que au-delà des économies qu'ils espèrent faire, c'est pour avoir de la main-d'œuvre docile, de la main-d'œuvre qui ne peut pas s'organiser collectivement, où c'est extrêmement difficile d'avoir des syndicats. Nous, on est dans une entreprise encore plutôt qui revendique un modèle social. Et bien, les sous-traitants, plusieurs des sous-traitants, donc j'ai aucun doute sur la véracité de ce qu'ils disent qu'ils se sont fait engueuler, pour le dire comme ça, parce qu'ils ont simplement parlé à un syndicaliste. Ils ont été vus parler à un syndicaliste. C'est vraiment le règne de la peur et il n'y a plus de moyen de se défendre là-dedans. Donc voilà, développement de la sous-traitance pour ça, pour essayer de casser les collectifs de travail. Et puis évidemment, toutes les formes de précariat, le développement de l'intérim, les CDD, toutes ces formes où c'est encore plus difficile de se syndiquer. Et d'ailleurs, on voit les taux de syndicalisation très différents.
Bon, après, la note revient de manière assez approfondie sur ces questions, sur la syndicalisation, dont on voit bien qu'elle est largement inférieure dans les secteurs comme dans les entreprises, évidemment, voilà. Mais aussi dans les secteurs où la sous-traitance est développée. Agnès, tu avais l'air de vouloir intervenir sur ce point.
On peut peut-être compléter avec les deux horreurs qui nous ont été pondues par le gouvernement actuel, parce qu'il y en avait quand même beaucoup moins. Moi, je vois, la Cité des Sciences, c'est quand même hallucinant. Se développe de plus en plus l'emploi. Alors, l'emploi, ce n'est pas le mot, l'emploi. Alors, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. De travailleurs indépendants, et les auto-entrepreneurs qui sont par définition privés de tous les droits inhérents aux salariés. Ils n'ont rien, ils n'ont absolument aucune possibilité de défense de quoi que ce soit. Alors, je vais peut-être un peu loin parce qu'effectivement, on a des moyens juridiques pour se défendre contre ça, mais à partir du moment où ces statuts viennent d'être créés, il va falloir des années avant que les personnes sachent, les personnes qui sont donc dans cette situation de punition, sachent qu'ils peuvent se défendre et que ça aille jusqu'à nouveau prud'homme. Et puis, c'est très casse-gueule pour quelqu'un qui ne compte que sur lui-même et pas du tout sur l'employeur, son vrai employeur, qui est en fait un employeur qui se cache. Et pour se syndiquer et se défendre, c'est encore plus difficile puisque le collectif a explosé totalement. Là, vraiment, il n'y a plus que des personnes totalement isolées et totalement privées de tout, de tout. Et pour vous dire, je connais quelqu'un qui est comme ça, qui est un technicien à la Cité des Sciences et qui dort sous une tente parce qu'il ne peut pas avoir suffisamment d'argent pour avoir un logement. C'est quand même fantastique, non ?
Alors, tout ça, évidemment, nous amène à la question des résistances. Alors, la note aborde cette question. Elle essaye de montrer, évidemment, qu'elle montre hein, qu'il y a de nombreuses formes de résistance qui se mettent en place, qui vont à la fois des résistances telles qu'on a pu les voir aujourd'hui, la grève, évidemment, parfois dans des situations difficiles, l'utilisation du droit, évidemment, oui. Hein, pour se défendre. Là encore, est-ce que... Anne ?
Bon, alors, effectivement, le droit, ça, même si on pense, et on reviendra quand on parlera des propositions, que le droit est très insuffisant aujourd'hui, et en tout cas sa mise en application est très compliquée, il existe tout de même des choses. Il existe une évolution du droit qui permet un peu mieux de se protéger, comme Agnès qui est arrivée à, malgré tout, à avoir des indemnités. Alors, il y a deux aspects. Il y a le volet civil, soit le tribunal professionnel, soit les prud'hommes, qui peut, par exemple, décider de la nullité d'une décision d'une direction.
C'était le cas de Nordine dont tu nous as parlé tout à l'heure.
Alors justement, sauf pour le licenciement, parce que alors je peux à cette occasion revenir sur Nordine. Effectivement, Nordine, il a fini par aller au prud'homme. Bon, il faut dire quand même que ça a duré un an et demi avant qu'il puisse arriver au prud'homme, et pendant un an et demi, il était hors de l'entreprise et hors de son logement. Les prud'hommes ont jugé qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, donc c'était un licenciement abusif. Mais comme ils n'ont pas fait le lien avec la grève à cette étape, eh bien, il n'est pas réintégré. Il y a quelque chose d'invraisemblable dans le droit aujourd'hui, c'est que un employeur peut licencier de manière abusive un salarié s'il n'est pas dans un des cas très particuliers où il s'attaque à un salarié protégé, il n'est pas obligé de le réintégrer. Donc ça, c'est quand même un gros problème. Alors pour Nordine, on va aller en appel. Mais enfin, pour l'instant, on en est là. Il a été licencié un mois après une grève où il a été meneur, sans cause réelle et sérieuse. Et aujourd'hui, il est en dehors de l'entreprise. Et l'employeur qui l'a licencié, les directions, enfin, les, directrices qui ont pris ces décisions n'ont eu aucun problème dans leur carrière. Donc il y a l'impunité d'un côté et de l'autre côté on paye. Bon, alors après le civil, il y a aussi le versement de dommages et intérêts qui peut pour réparer le préjudice subi, qui peut se monter relativement haut.
Oui, parce qu'on a beaucoup parlé des licenciements, mais il y a tout un arsenal juridique dans la législation. Les personnes qui s'estiment discriminées, comme Agnès par exemple, qui ont subi des avancements de carrière notamment perturbés, ouais, par ça.
Pas d'avancement.
Pas d'avancement du tout.
Voilà, ils n'ont pas pu en profiter. Et on peut aller au prud'homme, pas seulement pour les cas de discrimination, pour les cas de...
Ouais. Et là, il y a une vraie avancée du droit et de la jurisprudence. Agnès pourra en parler.
Agnès peut en parler, énorme, effectivement.
Énorme, oui. Et c'est assez récent. Ça date des années... j'ai peur de dire une bêtise. Ça date... la première grande bataille a été menée par François Clerc, qui est bien connu maintenant.
Absolument. Qui a participé, si ce n'est à la rédaction de la note, en tous les cas à la conception de cette note.
Bien sûr, et avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui m'a beaucoup aidé justement dans la construction de mon propre dossier. Et François Clerc lui-même a mis une méthode donc au point qui est très importante et qui est reconnue par la Cour de cassation, qui est quasiment de la jurisprudence constante. Et donc pour en revenir, je ne sais plus. Alors je ne sais plus si c'est 93 ou 98.
98.
D'accord. Donc c'est encore plus récent que je le pensais. Il y a eu une grande bataille qui a été menée donc à Peugeot-Sochaux, et François Clerc et plusieurs de ses camarades ont entamé une procédure au prud'homme qui a duré longtemps, prud'homme, appel, etc., etc., où ils ont gagné, gagné contre l'employeur qui a été condamné pour discrimination syndicale et salariale, si je me souviens exactement du mot, et oui, ils ont eu donc des dommages et intérêts.
C'est un cas un peu différent, en fait. C'était la direction a reconnu les cas de discrimination et a signé un accord avec les syndicats. C'était, si je ne me trompe pas.
Non, mais ce qu'il faut que tu expliques, c'est que là, on est dans un cas qui est celui,
peut-être que je mélange.
Non, pas du tout. Non, simplement, pour qu'on comprenne bien, ce qu'il faut que tu expliques, c'est que là, et c'était ton cas, c'est-à-dire, oui, on est dans le cas d'une discrimination qui porte essentiellement sur le déroulement de carrière.
Voilà, en comparaison avec les autres collègues. C'est là-dessus que ça se base. C'est, on prend un panel de personnes. Moi, pour ce qui me concerne, j'étais secrétaire de direction. Je suis la plus diplômée de toutes mes collègues. Je suis donc une des plus anciennes puisque je suis arrivée à l'ouverture. Et c'était très étonnant parce que j'étais la plus mal payée. Donc il y a quand même quelque chose qui ne collait pas. Là où je parlais de la solidarité tout à l'heure, c'est que quasiment toutes mes collègues m'ont donné leur évolution de carrière, leur salaire d'embauche et jusqu'au salaire du jour où j'ai engagé. C'est quand même très émouvant, ça m'a beaucoup plu. C'est
ça
là qu'on voit que la collectivité
de preuve,
voilà,
en fait.
Ah oui, le collectif est absolument extraordinaire. Ça m'a servi de preuve. Ensuite, il y a un des éléments qui est très important, un dispositif juridique qui est très important, c'est que l'avocat qui saisit les prud'hommes, ou la personne qui saisit les prud'hommes, c'est plutôt par un avocat que ça se fait, demande la liste de tous les salariés avec lesquels se compare le salarié qui s'estime discriminé. Hein, c'est comme ça. Je suis désolée, c'est comme ça. Parce qu'il est discriminé, mais je suis obligée de vous dire en tant que juriste qu'il s'estime discriminé. Et à partir de ce moment-là, l'entreprise est tenue de fournir ces documents. Si elle ne les fournit pas, enfin ces éléments, s'ils ne sont pas fournis, bien entendu, le juge en tire la conclusion. Nous-mêmes, si on a une demande de documents qui n'ont pas été fournis, il est bien entendu qu'on en tire les conclusions. C'est qu'il y a des choses dedans qu'il ne faut pas voir.
Non, mais c'est vrai que la nouveauté, c'est qu'il y a eu un renversement. C'est un peu le seul cas dans la discrimination salariale. Il y a un renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que c'est à l'employeur d'expliquer, de
Absolument.
Prouver qu'il n'y a pas de discrimination quand on s'aperçoit qu'un salarié est moins bien payé que les autres.
Et ça change tout.
Et malheureusement, dans les autres cas, pour l'instant, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que, je peux reprendre le cas de Nordine, c'est à lui de prouver qu'il n'a pas commis de faute qui justifie le licenciement. C'est pas à l'employeur de,
un peu plus compliqué.
De prouver ça. Voilà.
Et quels sont les résultats, justement, dans les juridictions? On parle des prud'hommes pour l'instant, mais quels sont les résultats des cas qui ont été présentés? Est-ce que vous connaissez un peu les chiffres?
Maintenant, justement, on a cherché un peu et on n'arrive pas à voir. C'est un des objectifs maintenant à venir, hein, quand on dit qu'on veut essayer de mettre en lumière les choses, c'est d'arriver à avoir des données un peu statistiques générales sur ces choses-là. Nous, on a des résultats individuels. On a, par exemple, un autre collègue qui a été réintégré par les prud'hommes, mais on n'a pas de point de vue général là-dessus.
Mais en tout cas, les prud'hommes, c'est peut-être la meilleure solution, et en tout cas la première à aborder, puisque au civil et encore plus au pénal, c'est plus compliqué. On a plus de chances d'échec, je crois.
Alors le pénal, c'est vrai que c'est très difficile. Hein. Normalement, l'employeur est responsable pénalement en cas de discrimination ou de répression. Mais en fait, quand on regarde les sanctions réellement appliquées, elles sont dérisoires. Enfin, les sanctions pour discrimination, la première fois, c'est 3 750 € qui risquent. Et la deuxième, s'il y a récidive, c'est 7 500 € et éventuellement 1 an d'emprisonnement. Sauf que dans les faits, c'est jamais appliqué. Et donc finalement, ils peuvent vraiment jouer à ça, les employeurs. C'est-à-dire qu'ils y vont, ils risquent, et finalement, il leur arrive rien. Et c'est vrai que les prud'hommes, c'est plus facile de gagner dans un certain sens. Et encore, ça dépend des endroits. Mais finalement, l'employeur s'en tire quand même à très bon compte.
D'accord.
Ben, oui. Le terrain, il est très clair. On est dans un système capitaliste basé sur le respect de la propriété privée. À partir de là, je crois qu'il faut qu'on se batte avec les éléments qu'on peut avoir, c'est-à-dire le pénal, les prud'hommes. Les prud'hommes, quand même, attention, il y a 2 salariés, mais 2 employeurs. Si on tombe sur 2 employeurs du MEDEF, il est très clair que ça part en départage et ensuite en appel. Je pense qu'il y a des éléments qui sont extrêmement importants et qu'on ne peut pas les négliger. La propriété privée sacro-sainte.
Bien, peut-être une deuxième petite pause musicale et ensuite, on va aborder la question qui est traitée dans cette note, qui est celle, en gros, des préconisations, des propositions que vous faites pour essayer d'enrayer ce phénomène. Je crois qu'on peut dire tout de suite qu'il y a évidemment des propositions d'ordre juridique que vous essayez de développer. Et il y a une proposition un peu forte sur laquelle on reviendra, qui découle finalement un petit peu de tout ce que vous venez de nous dire, de ces difficultés à faire émerger cette question de la discrimination, qui est celle de mettre en place un observatoire des discriminations syndicales. Je vous propose qu'on revienne sur ces questions juste après la pause musicale.
On écoute tout de suite Odile de Nadea.
Notre émission sur 106.3 FM, Radio Fréquence Paris Pluriel, avec Anne et Agnès. Alors, nous disions qu'on allait aborder maintenant, je dirais, les préconisations, les propositions qui sont présentes dans la note. Agnès, néanmoins, voulait un petit peu nous raconter un peu comment elle a vécu ces problèmes et surtout les manières un peu de
oui,
comment
déjà,
tout ça se traduit.
Voilà, je pense que c'est une façon, enfin le moyen de voir, enfin d'arriver à prendre conscience du fait qu'on est victime d'une discrimination. C'est ce qu'on dit d'ailleurs en formation quand on fait nos formations sur la discrimination. Il y a des étapes successives de ce que je rappellerais la descente aux enfers. La première étape, on conteste le fait qu'on n'a pas un traitement conforme aux autres et conforme à ses compétences. Je ne suis pas plus mauvais qu'un autre, il n'y a pas de raison. La deuxième chose, deuxième étape, parce que bien entendu, à côté de ça, il y a l'employeur qui a quand même le pouvoir de direction, donc il continue à ne pas donner de formation, etc., etc. Donc on commence à se dire, peut-être que il a peut-être raison. Et puis on commence à être isolé de plus en plus du reste des équipes. On nous donne moins de travail, on nous refuse les formations, on multiplie les remarques. Finalement, on se dit, finalement, je suis peut-être pas si bon que ça. Je ne suis pas si bon que ça, puis on finit par croire qu'on n'est plus si bon que ça.
Dans la note, Agnès, on voit très bien comment ça s'est passé pour toi. Tu dis dans la note qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé, l'employeur t'isolait.
Ah, complètement.
Et tu n'avais plus que deux heures de travail par mois.
Par mois, à peu près. Et puis quand les autres étaient pas, quand mes collègues n'étaient pas là, tout à fait. Et puis à un moment donné, on se dit, je dois être moins bonne, donc finalement, peut-être que je fais moins bien le travail que les autres. On ne sait jamais, puis on finit par le croire et on finit par le devenir. Alors ça c'est la dernière étape, c'est qu'on perd confiance en soi, on n'a même plus le respect de soi-même, on n'est plus rien, on culpabilise parce qu'on a l'impression d'être payé à ne rien faire. Donc il est bien entendu qu'on va quand même pas demander une augmentation de salaire. Enfin, c'est déjà, on a l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre, et ça c'est épouvantable parce que en plus certains collègues le font comprendre. Il est bien entendu. Moi, le coup de pied ou la grande claque que j'ai prise qui m'a permis de sortir de là, c'est quand j'ai été voir mon directeur, enfin le DRH, parce que j'étais pas augmentée depuis je sais pas combien de temps, alors que théoriquement on a des avancements réguliers, et que mon directeur direct a dit « Ah mais de toute façon, Agnès, tant qu'elle aura son mandat prud'homal, elle aura pas d'augmentation ». Heureusement qu'il m'a dit ça, cet imbécile, parce que c'est là que justement je me suis dit, mais c'est pas vrai, il n'y a que ça, ça n'est que ça, c'est pas parce que je suis mauvaise. Et depuis, je demande des formations, etc., et tout m'est refusé. Je vais y retourner, bien entendu.
Bien, alors, Anne, tout ça nous amène à quelques propositions.
On a commencé à faire des propositions, sachant que l'Observatoire, sachant que ces propositions sont amenées à être enrichies, hein, c'est l'objectif. D'abord, il faut que tous les salariés soient protégés, pas seulement les salariés des grandes entreprises. Aujourd'hui, en dessous de 11 salariés, il n'y a pas de CE, il n'y a pas de délégué du personnel, et donc c'est très compliqué. Donc il faut, quitte à mettre des élections par branche et par secteur d'activité ou géographique, il faut faire quelque chose. Pareil pour les sous-traitants, il faut que les droits soient étendus, les droits des entreprises donneurs d'ordre soient étendus aux sous-traitants de manière à mieux les protéger et que ça ne devienne plus un objectif, enfin, qu'il n'y ait plus d'intérêt, disons, de sous-traiter. Ensuite, il faut revoir de fond en comble le droit disciplinaire, la manière dont se déroulent les choses. Moi, je parlais de parodie de justice. Actuellement, l'employeur est juge et parti. Il mène l'enquête, il juge, et puis il exécute la sanction. Ça, c'est pas possible. Jamais on n'accepterait ça autre part que dans l'entreprise. Donc, il n'y a pas de raison de l'accepter non plus dans l'entreprise. Donc, il faut absolument que ça soit jugé par un tiers. Bon, alors aujourd'hui, on peut dire les prud'hommes, finalement, sont un tiers et juge. Sauf que c'est pas suspens.
Ils interviennent après.
Voilà, ils interviennent après. Parfois très longtemps après. Ça peut aller jusqu'à 2 ans après. Et puis, en plus, la charge de la preuve est aux salariés. Donc, ce serait presque une procédure d'appel. Donc, il faut que la procédure soit suspensive de la décision. Il faut qu'il y ait un droit à l'information des salariés, qu'ils sachent au moins ce qu'on leur reproche quand ils sont convoqués à un entretien, et puis qu'ils aient accès à l'information pour se défendre, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui.
C'est aussi ce que nous expliquait d'ailleurs Agnès lorsqu'elle nous expliquait que lorsqu'elle a réussi à se défendre, c'est quand elle a réussi à avoir de la part de ses collègues de travail,
oui,
des fiches de salaire qui montraient que finalement il y avait véritablement une discrimination en termes salariales et qu'elle n'avait pas bougé. Et que voilà.
Oui, et j'ai rien dit, et je me suis retrouvée dans la situation de la perdante, quoi.
Cette information-là, effectivement, c'était une nécessité absolue pour pouvoir prouver finalement
absolument
la discrimination syndicale.
Et c'est indispensable. On ne peut pas faire autrement. C'est impossible. On ne peut pas se référer à rien. Si on demande une augmentation de salaire, si on demande la reconnaissance, c'est même pas une augmentation de salaire, c'est la reconnaissance de sa propre valeur, on doit la comparer avec les autres. C'est pas possible autrement, sinon c'est un chiffre qui flotte.
Bon, ensuite, il faut vraiment qu'il y ait un renforcement des sanctions, hein, civiles et pénales. On voit qu'aujourd'hui, on l'a dit, ça peut vraiment détruire des gens. Alors, le licenciement, c'est une peine qui est très lourde, surtout aujourd'hui dans une situation de chômage. Mais même le harcèlement, la discrimination, c'est extrêmement lourd et ça a des conséquences graves pour les salariés. Donc, il faut qu'en face, il y ait des sanctions réellement dissuasives. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, même quand les employeurs sont sanctionnés, ça leur coûte rien à l'échelle de leur entreprise. Et donc, ils peuvent vraiment s'amuser à ça. Enfin, nous, on voit, par exemple, dans le cadre syndical, une entrave au droit syndical où ils refusent de nous donner les moyens auxquels on a droit. On va en justice, on gagne, mais au bout du compte, on peut considérer qu'ils ont gagné parce qu'ils nous ont empêchés de travailler pendant ce temps-là pour finalement pas cher.
À votre avis, c'est le droit ou le juge qui est trop laxiste ?
c'est, je pense que c'est surtout le droit aujourd'hui, mais en plus, c'est vrai, s'ajoute à ça le fait, et c'est pour ça qu'une des autres propositions, c'est qu'il y ait une formation un peu spécifique des juges. On sent que les juges n'aiment pas trop se mêler des affaires de l'entreprise, en gros, et considèrent que voilà, ça doit se résoudre. Et quand on voit le nombre de PV d'inspection du travail qui sont classés sans suite, hein, quand un inspecteur du travail fait un PV pour harcèlement ou pour d'autres motifs, bon, c'est un gros travail pour lui. Les inspecteurs sont sous-effectifs, ils ont une charge énorme. Donc, en général, ils choisissent des cas où ils pensent qu'il y a réellement un problème. Dans la plupart des cas, c'est classé sans suite. Ça veut dire qu'il y a, un problème à la fois dans le droit et à la fois dans son application.
D'ailleurs, ça fait partie des propositions de la Fondation
de renforcer les moyens à la fois de l'inspection du travail et puis aussi donner les moyens d'accéder à la justice aux salariés et à leurs syndicats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir accès à un avocat, ben, c'est le même prix pour un syndicat et pour l'employeur, sauf que l'employeur, il pique dans l'argent de l'entreprise pour faire ça. Il a des moyens énormes, il a des armées d'avocats et les salariés en face, ils ont les cotisations simplement de leurs adhérents pour payer et donc ils ne peuvent absolument pas mettre les mêmes moyens et donc il n'y a pas égalité, complètement une disproportion. Et puis un autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est sur la question des, on l'a dit, hein, mais des licenciements. C'est vraiment pas admissible que dans le cas où les licenciements ont été jugés sans cause réelle et sérieuse, donc licenciement abusif, il n'y a pas un droit automatique à réintégrer le salarié. C'est-à-dire tout salarié qui demande à être réintégré après un licenciement abusif devrait avoir droit à ça.
Et ce n'est pas le cas aujourd'hui.
C'est le cas dans le monde.
Bien, l'heure avance, on va être obligé rapidement de conclure. Peut-être sur la question de cet observatoire, Agnès,
oui,
peut-être un petit mot.
Oui, moi je suis quand même conseillère prud'homme, je voudrais quand même modifier un petit peu ce que dit Anne, parce que on n'a pas du tout la même approche. Je voudrais donner, si c'est possible, en très peu de temps, des outils à nos camarades qui nous écoutent. D'abord, les organisations syndicales ont le devoir, de par le Code du travail, j'ai pas l'article là, parce que je suis prise de court, j'ai bien sûr mon Code du travail, je l'ai toujours avec moi, mais là je peux pas vous le donner, mais ils ont le devoir d'intervenir pour tous les salariés qui interviennent sur le site, quoi qu'il arrive, et personne ne peut les en empêcher. Et ensuite, je voudrais signaler, alors, dans le Code du travail, bien entendu, l'article L1132-1 du Code du travail qui concerne l'interdiction de toutes les discriminations. Il y en a 18. La discrimination syndicale est traitée très précisément, elle fait partie des 18, mais elle est traitée à part. C'est le L2141-5 du Code du travail. Et ne pas oublier, parce que quand il y a discrimination, il y a harcèlement moral, c'est obligatoire. Le harcèlement moral, actuellement, les tribunaux n'aiment pas en entendre parler. En revanche, il y a quelque chose de très, 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 très important, c'est l'obligation de sécurité de résultat. C'est le L4121-1 du Code du travail. Et surtout, 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 servez-vous-en, il est absolument indispensable et essentiel. Et on gagne.
Je ne crois pas que ça s'oppose à ce que j'ai dit. C'est-à-dire
non,
qu'effectivement, il y a des articles, mais il y a des problèmes de moyens. Oui.
Ça complète. Et ce que tu disais quand tu dis que c'est classé, c'est en général le pénal, mais au prud'homme, ça n'est pas classé, jamais.
Oui, oui. Mais après, il reste le problème des sanctions.
Voilà.
Ce serait d'ailleurs une démission.
Il faut bien monter son dossier.
Ce serait d'ailleurs une démission de l'Observatoire de communiquer sur le droit et sur les différentes possibilités qu'ont les salariés qui s'estiment discriminés de se défendre.
Voilà, donc l'observatoire, nous on espère pouvoir lancer cet observatoire sur la durée, donc pour pouvoir mettre en commun tous les acteurs concernés, alors, et évidemment au premier chef les organisations syndicales, mais aussi des juristes, des chercheurs, des associations comme la LDH par exemple, pour alors à la fois recenser des témoignages, recenser aussi toutes les données qu'on a, toutes les données statistiques qu'on a et faire en sorte qu'il y en ait de nouvelles qui soient là, faire un état de la jurisprudence, suivre ça, que ce soit une sorte de boîte à outils collective pour pouvoir trouver des solutions sur la répression et la discrimination, et puis aussi permettre l'analyse, permettre d'analyser collectivement les manques qu'il y a d'un point de vue juridique notamment, et pouvoir faire des propositions pour faire évoluer les choses. Donc mettre en lumière et faire des propositions pour faire évoluer les choses, le tout collectivement.
Bien.
Bien sûr collectivement.
L'appel est lancé.
Eh bien écoutez, l'émission va se terminer. Je vous rappelle peut-être, alors en quelques mots maintenant, Nos prochains rendez-vous, enfin notre prochain rendez-vous, ça sera le 16 décembre. Le sujet que nous traiterons à ce moment-là sera celui de la démocratie participative et des budgets participatifs. Peut-être tu peux nous en dire quelques mots. Non, pas à ce stade encore, mais en tous les
pas
cas.
Pas encore prêt, mais ça, on y travaille.
On y travaille. Bien, bah écoutez, merci. Et puis donc, vous retrouvez. Alors pour ceux qui le désirent, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la Fondation Copernic. Qui sera très rapidement mis en ligne. Et donc rendez-vous le 16 décembre prochain pour une nouvelle émission.
Merci.
Au revoir.